Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais aller avec vous dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Et on fera plusieurs lectures. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un personnage de la Bible, celui dont l'Écriture, celui que l'Écriture appelle le Père des croyants. Alors, de qui s'agit-il ? J'ai pas bien entendu ? Abraham. Voilà. L'Écriture nous dit, on aura le temps de le lire tout à l'heure, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui ressuscite les morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il a cru et on va le voir. Et je voudrais que nous allions donc dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6e et au verset 9. L'Épître aux Hébreux est adressée à des chrétiens qui sont sortis de la religion juive, du judaïsme. C'est-à-dire que pour eux, ils pratiquaient une justice par les œuvres et ils pensaient qu'ils étaient sauvés par les œuvres. Il n'y a pas que le judaïsme qui est comme ça. Il y a beaucoup de religions qui sont comme ça. Mais eux étaient sortis de cela et puis... il y a quand même une particularité dans la religion juive, c'est que non seulement elle prescrivait la loi, mais elle annonçait comment être sauvé au travers des prophètes qui annonçaient la venue de Jésus, la venue du Christ qui établit une justice parfaite qui nous sauve. Et ils sont devenus des enfants de Dieu, ils ont accepté Jésus, l'évangile a résonné dans leur cœur. Et puis, tandis qu'ils ont marché avec le Seigneur, voici que des épreuves ont surgi dans leur vie et ils se sont mis... comme ça peut arriver parfois lorsqu'on a été prouvé durement, persécuté, voire sont mis à douter, sont mis à dire « mais est-ce que c'est la bonne voie ? Est-ce que, puisqu'on vit des choses difficiles, est-ce que ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous ?» Vous voyez, on peut se poser toutes sortes de questions. Hein, parce qu'on dit que Dieu bénit, et Dieu fait grâce, etc. Et lorsqu'on a un temps de souffrance, on peut se dire « mais Seigneur, est-ce que tu es pour que je souffre ?» Alors, l'Épître aux Hébreux va s'adresser à ces chrétiens-là, qui sont tentés de reculer, qui sont tentés de faire marche arrière. Et ce passage que nous allons lire nous invite à mettre toute notre foi en Jésus, mais non seulement à mettre notre foi en Jésus, mais également à persévérer. Alléluia. Et c'est ce mot que je voudrais que vous reteniez ce matin, la persévérance de la foi. Alléluia, la persévérance de la foi. Alors donc, nous lisons ici, nous est dit, donc verset 9, « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, ça veut dire c'est sûr, je te bénirai et je te multiplierai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévérer, obtint l'effet de leur promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, c'est-à-dire le fait que sa résolution, elle ne changera jamais, intervint par un serment afin que par deux choses immuables, c'est-à-dire Dieu fait un serment et il fait une promesse, et quand Dieu parle, ça ne change pas. On l'a chanté tout à l'heure, il est toujours le même, il ne change pas. La parole des hommes, elle s'envole, la parole de Dieu, elle reste. Donc, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait pour nous, souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et on continue. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père et sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Gardez également en mémoire ce nom de Melchisédek parce qu'il reviendra également tout à l'heure. Voilà, donc nous sommes face à ce texte qui a pour but d'amener les croyants à laquelle cet épître est destiné, pour lesquels cet esprit est destiné, de les maintenir dans une foi vivante, mais également de persévérer dans cette foi. Comment rester fidèle? Comment persévérer? Comment avancer avec le Seigneur? Parfois des questions qui se posent, et notamment dans le cœur de jeunes baptisés, de jeunes convertis. Comment je vais faire? Ou alors de certains qui se disent, je voudrais m'engager, Seigneur, mais comment est-ce que je vais être sûr de pouvoir tenir avec toi? Comment est-ce que je vais être sûr de pouvoir garder mon engagement aussi fort et ne pas chuter, ne pas tomber? Nous allons voir ensemble que notre force, elle est en Christ. Alléluia! Elle est dans celui qui te permet d'avancer, de persévérer. Nous allons voir ce que c'est que la foi, la persévérance dans la foi, mais les moyens également que nous avons en Christ, en Jésus, les moyens que nous avons de persévérer. Alléluia ! Parce que je voudrais vous dire, et commencer quand même par le meilleur, c'est que Abraham, l'Écriture nous dit, il a placé sa foi, il a persévéré dans la foi, et il a obtint ce qui lui était promis. Il n'a pas fini sa course sur cette terre en vaincu, mais en vainqueur. Alléluia ! Amen. Et tout à l'heure, nous verrons, c'était pourtant un homme de la même nature que nous, un homme qui a eu besoin d'apprendre à marcher avec Dieu, un homme qui a commis des erreurs, mais Dieu ne l'a jamais abandonné, il a toujours relevé et il lui a permis qu'il aille jusqu'au bout de la course. Alléluia, amen. Et si Dieu a été fidèle envers Abraham, Dieu veut être fidèle envers nous. Parce que dans le cœur du Seigneur, il n'y a aucune acception de personne. Il ne fait pas de différence qu'on vienne du Havre, qu'on vienne de Montpellier, de la Martinique, ou de la Réunion, ou de la Guadeloupe. Le Seigneur est le même. Alléluia. Et il fait grâce à tous les hommes, à lui soit la gloire. Alléluia. Donc je voudrais vous parler tout d'abord de ce que c'est que la foi en Christ. Et bien sûr, pour la plupart, nous le savons, la foi, c'est pas la conséquence d'une instruction religieuse. C'est pas ça, la foi placée en Jésus. La foi en Christ, c'est la conséquence d'une rencontre avec Jésus. Alléluia. C'est pas une invention, c'est pas une espèce de fabrication humaine ou une espèce de raisonnement, une philosophie. Le christianisme, si on peut l'appeler ainsi, c'est une personne. Alléluia. Et plusieurs d'entre nous peuvent dire, un Margaret, un Jean, même si ça fait longtemps, vous vous souvenez, j'en suis sûr, du jour où vous avez accepté Jésus, de votre vie avant Christ et de votre vie après Christ. Alléluia. Et la preuve quand même que ça marche, c'est que vous êtes toujours là. Alléluia. Merci Seigneur. Alors nous voulons dire merci Seigneur, et certains d'entre nous étions dans la dépression, certains d'entre nous étions dans la débauche, certains d'entre nous étions misérables, bas tombés, dans toutes les misères et dans toutes sortes de galères. Certains d'entre nous avions même une vie toute tracée, tout allait bien, mais il y avait un vide dans le cœur. À quoi ça sert de gagner de l'argent? À quoi ça sert d'avoir une maison? À quoi ça sert d'avoir des enfants? Si la fin de tout, c'est le trou, c'est la tombe, le caveau. Alors il peut être en marbre, ça peut être de la terre, mais à la fin, la poussière retourne à la poussière. À quoi ça sert? Jusqu'au jour où vous avez découvert l'amour de Dieu. Alléluia! Vous avez compris que vous étiez des pécheurs, qu'à cause de notre désobéissance, nous étions séparés de l'amour de Dieu, mais malgré tout, Dieu a continué de nous aimer. Et pour que nous puissions entrer dans sa présence, il a fallu nous pardonner, il a fallu nous racheter. Et Jésus est venu. Alléluia! L'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, et il a donné sa vie, envers nous. Alléluia! Et nous voulons comprendre, que ce message, nous voulons est toujours actuel, parce que Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité, il est vivant. Alléluia! Et je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un au milieu de nous dans cette matinée qui n'a pas encore accepté Christ, Mais pourquoi est-ce que tu tardes ? Accepte-le, alléluia ! Fais de lui ton sauveur. Ne vois-tu pas que tu crées ton propre malheur ? Eh bien, en te fermant à l'amour du Seigneur. Mais au contraire, ouvre les portes de ton cœur. Laisse-le rentrer. Laisse-le te visiter. Il y a un vieux chant qui dit ceci. Si tu savais comme il t'aime, sans tarder, tu viendrais à lui, tu viendrais à l'heure même, tu viendrais dès aujourd'hui. Alléluia ! Mais oui, le Seigneur est capable de transformer ton cœur, mais il faut que tu le laisses rentrer, il est vivant, et je ne veux pas encore continuer sur ce thème, mais dans le sens que il est celui qui est capable de transformer eh bien, ton cœur et ta vie, alléluia. Alors, la foi, c'est cela. La foi, c'est placer sa confiance eh bien, dans celui qui est capable de mettre la vie là où il y a la mort. Et Abraham, c'est quand même un type, j'allais dire un modèle, de ce qu'est un croyant en Jésus-Christ. Et c'est là où on voit toute la pédagogie divine. Avant que Christ vienne, physiquement sur cette terre, que Dieu se fasse homme, mais sa venue était déjà annoncée. Et Abraham, c'est vraiment le type du croyant, de celui qui considère que le péché a fait une œuvre dans sa vie, il y a la mort, mais lui, il place sa foi dans celui qui est capable eh bien, de mettre la vie. Et regardez ce qu'on peut lire, si vous êtes toujours là, hein, dans Épître aux Romains, au chapitre 4, c'est le texte que je vous ai cité tout à l'heure un petit peu, mais on va le lire avec un peu plus d'attention. Et voici ce qui nous est dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 4 et au verset 17, la deuxième partie du verset 17, il nous est dit concernant Abraham, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia ! Et c'est pour cela eh bien, que ces choses lui furent imputées à justice, sa foi lui fut imputée à justice, parce qu'il a cru que Dieu était capable de s'intéresser à sa vie, parce qu'il a cru que Dieu eh bien, était capable de faire de sa femme qui était stérile une femme qui allait porter un enfant. Alléluia ! Et toi aussi, tu peux avoir cette même foi en disant, mais Seigneur, je viens à toi avec ma difficulté, avec mon fardeau que je traîne depuis mon enfance. Tu vois le boulet que j'ai. Tu vois, eh bien, Seigneur, les pensées que j'ai. Tu vois mon passé. Mais tu peux croire également que Jésus t'aime, alléluia, et qu'il veut mettre la vie, le pardon et te libérer parce que tu as de la valeur à ses yeux. Alléluia, amen. Et Abraham, l'Écriture nous dit, il ne douta point à l'égard du plan de Dieu pour sa vie. Il n'a pas douté à l'égard des promesses que Dieu avait pour sa vie. Et ce matin, on peut avoir deux attitudes. Soit on croit que ce livre, ben c'est un livre intéressant, c'est un livre fait de principes ben qui sont bons quand même pour notre époque. Il faut le mettre en pratique. Tiens, ma voisine, elle devrait quand même le lire pour éduquer ses enfants. Ça lui ferait du bien. Ou alors, on considère que l'auteur de ce livre, il est vivant. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, il nous appelle par notre nom. Et tu peux croire que ce livre et ses promesses, c'est pour toi. Que Dieu t'appelle personnellement. Qu'il veut appliquer son plan d'amour dans ta vie. Alléluia. Mais ça change tout. Là, les yeux s'éclairent. C'est le Saint-Esprit qui agit et qui te dit, mais saisis-le par la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je voudrais vous dire qu'ici, dans cette salle, il y a des témoins, des hommes et des femmes qui sont capables de vous dire, je t'assure qu'il a tant fait pour moi, il est capable de le faire pour toi. Alléluia. Amen. Alors, non seulement Abraham, l'Écriture nous dit que Abraham a cru, mais non seulement cela, il a cru, mais eh bien, il a persévéré. Et c'est important, parce que l'Écriture nous dit, par la foi et par la persévérance, eh bien, il a obtint l'effet de la promesse. Je retrouve le texte que nous méditons. Il nous est dit ceci, afin que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance, verset 12, 6-12, hérite des promesses. Et un peu plus loin, il nous est dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Vous savez, c'est facile d'une certaine manière d'être dans cette salle et de croire, tandis qu'on a chanté des cantiques, tandis qu'on est dans, je le crois, pas une ambiance, mais une atmosphère qui vient d'en haut, spirituelle, où le Saint-Esprit nous bénit, alléluia, c'est facile d'une certaine manière de dire, ben, je crois que Dieu m'aime, je crois que Dieu veut me bénir, je crois que eh bien, ses promesses sont oui et amen, je crois qu'il est mort pour moi. C'est facile de le dire d'une certaine manière parce que toutes les conditions sont rassemblées pour nous faire entrer dans cette foi et gloire soit rendue au Seigneur. Mais ce n'est pas parce que j'y crois maintenant que je le vois s'accomplir forcément demain ou après-demain. Et concernant Abraham, il a obtint l'effet de la promesse 25 ans après avoir reçu cette promesse. Donc ça signifie que non seulement il faut avoir la foi, mais il faut persévérer. Je vois dans l'auditoire une certaine Toulousaine qui a appris à persévérer, qui sait ce que ça veut dire persévérer. Quand on cherche du boulot et qu'on n'en trouve pas, on sait que le Seigneur va bénir, mais un mois passe, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois. Et le Seigneur nous apprend la persévérance et la fidélité. Alléluia. Et peut-être d'autres, eh bien, ça résonne dans votre cœur parce que vous dites, Seigneur, tu m'as donné une parole pour le salut de mon mari, le salut de mon épouse, le salut de mes enfants. Je ne le vois pas encore s'accomplir. Oui, mais l'Écriture nous dit, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Et il nous est dit que persévérant, eh bien, il a obtint l'effet de la promesse. La persévérance, c'est continuer à faire ce que l'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Et on s'aperçoit que la persévérance était une marque de fabrique des premiers chrétiens. L'église première, l'église de Jérusalem, elle persévérait dans Actes 2,42, il nous est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Il persévérait. Comment se fait-il qu'une petite église, eh bien, qui n'avait pas de grands docteurs, qui n'avait pas eh bien, de grands spécialistes ou de grands prédicateurs, mais qui était remplie du Saint-Esprit, comment cette petite église qui était persécutée avec des hommes extrêmement instruits et religieux, comment est-ce qu'elle elle n'a pas sombré? Comment ça se fait qu'elle a tenu bon? Parce qu'elle a persévéré, alléluia! Elle a placé sa foi et sa confiance dans celui eh bien, qui était le sauveur de son âme, mais elle a voulu aller plus loin, alléluia. Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, eh bien, c'est le défi pour chaque croyant, pour chaque jeune baptisé, pour chaque frère, chaque sœur, d'aller jusqu'au bout. Tout à l'heure, nous avons chanté un chant. Tu es toujours le même, Seigneur. Tu ne changes pas. Et je voudrais vous dire, vous pouvez vous appuyer sur lui, il va vous donner, c'est ce que nous allons voir dans un instant, eh bien, la force d'aller plus loin, la force d'aller jusqu'au bout. Il a les outils, il a la matière, il a la force de vous donner eh bien, le courage d'aller jusqu'au bout, alléluia, et de persévérer. Amen, alléluia. Alors la persévérance, c'est quelque chose. Peut-être c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Nous, on veut que... On est dans un siècle de performance. Vous savez, on a ça. J'ai eu ça. Alors, ce n'est pas la mienne. C'est celle de ma femme. Et je ne lui ai pas confisqué. Hein. N'allez pas croire des choses. C'est le hasard. Voilà. Mais l'instantanéité, clac, clac. Voilà. On aime la performance. Au bout de 90 minutes, un monde-zone, tu sais qui a gagné, allez, prolongation, voilà. Mais une soirée, c'est bon, quoi. Si les matchs de foot duraient 2 mois, il n'y aurait peut-être pas grand monde pour les regarder. Mais la vie chrétienne, il faut s'accrocher, il faut persévérer, il faut aller jusqu'au bout, Seigneur. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est possible d'y arriver. Alors je voudrais que nous puissions voir ensemble les moyens que le Seigneur nous donne afin que nous puissions persévérer. Alors, nous sommes dans l'ère de l'action de l'Esprit. La Bible nous dit dans 2 Timothée au chapitre 1er que le Saint-Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et je voudrais voir avec vous, c'est qu'au travers de ces trois points, la force, l'amour et la sagesse, comment Dieu nous fortifie dans ces trois points-là pour que nous puissions persévérer et aller de l'avant. Vous êtes d'accord ? La force, l'amour. Ah, on va commencer par la sagesse. Et la sagesse, ça veut dire quoi ? La sagesse, ça veut dire, eh bien, comment je dois me comporter ? Comment tu dois te comporter, Abraham ? Je reviens à Abraham. Comment Abraham a dû se comporter pendant les temps où il était sur cette terre, où il a marché avec Dieu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, Dieu lui a parlé et il a dû fixer toute sa ligne de conduite, sa sagesse. Ça a été ma ligne de conduite, c'est « je me confie dans ta parole ». C'est ta parole. Amen. Vous savez que l'Écriture nous dit « Ta parole est une lampe sur mon sentier, une lumière, une voilà, à mes pieds. Voilà. » Vous l'avez remis dans le bon ordre. Et vous savez que Dieu ne change pas. À plusieurs reprises, Dieu parlera à Abraham et réitérera ses promesses envers lui. Tout d'abord, dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, il lui dira, va-t'en de la maison de ton père, de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, etc. etc. Dans Genèse 13, 4, il lui dit, il réitère encore ses promesses, 13, 14, il lui dit, mais lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, l'orient, l'occident, vois le pays que je le donnerai à toi, ta postérité pour toujours, je rendrai ta postérité comme la poussière. Genèse 15.1, il lui parle, 15.5, regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Et à chaque fois, Dieu réitère ses promesses et il les enrichit, il les développe et on s'aperçoit que Dieu ne change pas. Au contraire, il enrichit, mais Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'on peut fonder notre vie dessus. C'est du roc. Ça ne changera jamais. Dieu ne change pas. Alléluia. On l'a chanté, il est toujours le même. Par contre, je ne sais pas vous, mais nous, on peut changer. Oui ou non ? Et c'est bien là le problème. Pour persévérer, il ne faut pas changer. Mais nous, on change. Et si je m'intéresse encore un petit peu à la vie d'Abraham, ben je m'aperçois qu'Abraham, oui, la parole, elle est comme ça, mais lui, tu dois rester dans le pays de Canaan, c'est là que je te bénirai. Ouais, mais Seigneur, tu n'as pas vu, il y a une famine. Tu m'as dit que là, tu me donnerais à manger, que tu me multiplierais ma postérité, etc. Mais au lieu, tu as vu ce soleil, on n'en peut plus. Allez, je vais en Égypte. C'est pas tellement réglo, ça. Hein ? Et puis, bon, il revient de l'Égypte, on reviendra là-dessus. Et la promesse tarde quand même, parce que c'est Sarah qui doit porter un enfant. Mais enfin, Seigneur, tu me dis que c'est Sarah qui doit avoir un enfant, on attend, ça ne vient pas, jusqu'à quand, etc. Puis Sarah, elle a une espèce... Vous connaissez la combine ? La servante de Sarah, Agar, tiens, vas-y. Et au travers elle, on aura un enfant. Quelle histoire, quel problème, etc. Et on s'aperçoit que, eh bien, Dieu ne change pas, mais nous, en fonction des événements, des circonstances, on sait s'adapter quand même. Oui ou non ? Et dire, ouais, c'est comme ça, mais comme ça, c'est pareil. Ah, non, c'est pas pareil. Ah, mais voilà, et on sait... Et Dieu va apprendre, et peut-être à t'apprendre, à m'apprendre, à rester le même, à rester le même. Et vous savez que, en ce qui concerne Abraham, si vous voulez retenir un autre mot qui définit sa vie, c'est non seulement la foi, mais pour rester le même, il y a un autre mot, c'est la séparation. ôter de sa vie tout ce qui est une source d'influence contraire à la parole de Dieu. Ben, va-t'en du pays de ton père. Quitte le pays, va-t'en. Si tu restes là, tu vas mourir. Mes promesses ne vont pas s'accomplir. Quitte l'Égypte. Ce n'est pas en Égypte que tu trouveras un soutien. C'est le règne du diable et du monde. Tu vas perdre ta femme. Quitte, sépare-toi de ton neveu. C'est un homme charnel. Il amène la colère. Quitte, sépare-toi d'Ismaël et d'Agar. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Et même quand Isaac est bien né, mais écoute, ne t'attache pas à la bénédiction, mais attache-toi à l'auteur de la bénédiction qui peut renouveler sans cesse la bénédiction. Alléluia. Et on s'aperçoit que ce chemin de séparation, ça fait mal. Excusez-moi, mais Ismaël, Abraham, il aimait Ismaël. Il a dû se séparer d'Ismaël. Il a dû se séparer de Lot. Ça a été des choix compliqués. Quitter la maison de son père, c'était toute une aventure. Alors le frère, il s'en va là, mais à 75 ans, il est parti. Voyez, toute une aventure. Voyez, et avec un certain âge. Mais ce chemin-là, c'est le chemin de la croix. La croix, elle est déjà dans sa vie. Vous savez que le signe, eh bien, la marque de l'alliance de Dieu avec Abraham, ça va être la circoncision. Et la Bible nous parle que nous avons besoin également d'avoir un cœur circoncis, la marque de la croix dans notre vie. Que ce ne soit plus la chair qui domine sur nos pensées, sur nos raisonnements. On peut aimer le Seigneur et être charnel. Ça s'appelle un chrétien charnel. Ça veut dire, eh bien, je prends des décisions et après je demande que Dieu bénisse mes choix et mes décisions. C'est la cata. Mais je ne comprends pas, le Seigneur ne m'a pas béni. Mais le Seigneur n'a jamais dit qu'il bénirait toutes tes décisions et tous tes choix parce que tu as décidé de faire le Seigneur une espèce de machine à bénédiction. Ce n'est pas ça du tout. D'abord, tu dois prendre le temps, et je t'accorde ceci, c'est que ça peut prendre du temps, de comprendre quel est le plan et la volonté de Dieu pour ta vie. En matière de mariage, en matière de travail, en matière d'éducation, etc. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Ouh, alors on peut faire, elle a des yeux tellement beaux, c'est elle, j'en suis sûr. Ouais, enfin, tu t'es pas rendu compte qu'elle était bien loin du Seigneur, que c'est pas parce qu'elle a chanté 2-3 cantiques qu'elle a donné son cœur à Dieu, etc. Et la fin, c'est la cata. On a vu ce genre de choses. On dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Le Seigneur peut-être nous dirait, mais et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as demandé? Alors on a besoin de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et, là, et ta volonté, c'est quoi? C'est que je reste attaché à ta parole. Je veux entrer dans ton plan, alléluia. Je veux être compatible avec ta parole. Que ma pensée, mes raisonnements, ma vie, mon travail, mon attitude soient compatibles avec ta parole. Parce que ta parole me dit, Seigneur, que l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Seigneur, je veux m'humilier devant toi. Je veux que tu restes mon sauveur, alléluia. Je veux que tu règnes dans ma vie, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et peut-être c'est un élément de prière qu'on devrait rappeler quotidiennement au Seigneur. Et peut-être se rappeler, non pas ma volonté, mais ta volonté. Extirpe de mon cœur toute racine d'orgueil. Et l'orgueil, c'est filou quand même. Hein, ça se niche des fois dans des endroits complètement improbables. Seigneur, à toi la gloire. Alléluia. Et la promesse s'est accomplie. Amen. Alléluia. Parce que Dieu honore sa parole. Et sa parole n'a pas changé. Les promesses n'ont pas changé. Le Seigneur est toujours le même. Et un autre élément, sagesse, amour, force. Je voudrais vous parler de l'amour. Parce que, alors s'il y a un homme qui a compris ou qui a goûté à l'amour du Seigneur, à l'amour de Dieu, c'est vraiment Abraham. Abraham, des erreurs, il y en a un paquet dans sa vie. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de la descente en Égypte où il fait passer sa femme pour sa sœur pour pas qu'on le tue et qu'on prenne sa femme. Voilà. C'est une drôle d'embrouille quand même. Hein. Sa femme va... Ils se sont arrangés tous les deux pour que elle aille avec un autre homme pour qu'eux, ils soient à l'abri, même qu'ils s'enrichissent. Voyez. Et Dieu va les reprendre, les sortir de cette affaire-là. Ça ne veut pas dire que Dieu permet ça. Mais ils sont au béaba de la marche avec le Seigneur. Dieu les apprend à marcher en nouveauté de vie, en sainteté. Mais on s'aperçoit que, eh bien, malgré ces vicissitudes, malgré eh bien, ces chutes en Égypte, devant le Pharaon, parmi les Philistins, avec Agar, Dieu a toujours eh bien, relevé son serviteur. Il ne l'a pas abandonné, même s'il l'a discipliné, même s'il l'a redressé, même s'il l'a corrigé. Et il lui a imposé, même pendant un temps difficile, une certaine discipline. Dieu ne l'a jamais abandonné parce que Dieu aime Abraham. Alléluia. Et vous avez remarqué, lorsque eh bien, l'Écriture nous parle de tout cela, de la persévérance, elle fait appel tout à l'heure, vous avez retenu son nom, je vous ai demandé de le retenir, Melchisédek. On ne va pas le relire. Mais Melchisédek, c'est un roi. Le roi de Salem, ça veut dire le roi de paix, et Melchisédek, ça veut dire roi de justice. Et c'est un roi qui annonce la personne de Jésus, qui est le souverain sacrificateur de Dieu à cette époque-là, et qui va au-devant d'Abraham pour bénir Abraham avec du pain et du vin. La première scène de la Bible, elle se trouve là. Et il bénit face au roi de Sodome, qui veut amener Abraham dans un compromis. Eh bien, Melchisédek va bénir Abraham, et Abraham va lui offrir toute sa reconnaissance en lui offrant la dîme de tout. Il l'estime supérieur à lui, alors que c'est Abraham, celui qui est béni par Dieu. Mais voici qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à lui. Et je voudrais te dire ceci, il y a quelqu'un qui t'aime, ton avocat, alléluia, face aux tentateurs de ce monde, face à celui qui veut te faire chuter, peut-être à celui même qui a réussi à mettre sous tes pieds, excusez-moi l'expression, une peau de banane pour te faire tomber, trébucher. Mais tu as un rédempteur, alléluia, un avocat qui veut te redresser, qui veut te relever. Bien sûr, eh bien, le Seigneur désire, comme nous l'avons entendu ce matin, que nous ne prenions pas le pain et le vin à la légère. C'est pour te sauver que Jésus eh bien, a donné sa vie. Le pain, le vin, la croix, ce n'est pas fait pour justifier le péché de qui que ce soit. C'est fait pour justifier le pécheur. Alléluia. Il y a une grande différence. Ne prends pas la grâce de Dieu pour dire « Mais alors, je peux faire des petits écarts, etc. » Mais non, absolument pas. C'est pour t'arracher au péché. Mais si tu es tombé, le Seigneur veut t'arracher à ce péché. Alléluia. Pour que tu marches dans des voies droites. Amen. Alléluia. Et on s'aperçoit que l'amour de Dieu n'a jamais failli à l'égard d'Abraham. Et en raison de cet amour, en raison de ses promesses qui demeurent toujours les mêmes, Abraham a pu persévérer. Alléluia. Et peut-être y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'entendre la douce voix du Seigneur lui dire « Relève-toi. Et même si je te discipline, même si eh bien, je prends ta vie en main, même si tu trouves qu'il y a certains moments où c'est dur, c'est pas parce que je ne t'aime pas, mais c'est parce que eh bien, je veux ôter de ta vie ces choses qui sont autant de sujets de chute et de tentation dans ta vie, pour que tu ne tombes plus, pour que tu marches fidèlement. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, il nous est parlé de nos pères. Nos pères qui nous jugeait et qui nous corrigeait pour que nous marchions droit, nous dit la parole du Seigneur. Et la Bible nous dit que même la correction de Dieu, c'est un signe d'amour. Excusez-moi de vous dire, mais l'enfant à qui on permet tout, c'est pas un enfant qui est aimé. C'est pas un enfant qui est aimé. Tu peux tout faire, tiens, fume, bois, drogue-toi, sort, etc. Je me souviens que Anne me racontait une de ses amies dont la maman vivait une vie légère, et elle voyait l'éducation que ses parents lui apportaient. Elle disait, mais tu sais, je t'envie parce que tes parents veillent sur toi. Moi, ma mère, je peux faire n'importe quoi, elle s'en fiche complètement. Et je voudrais encourager les parents, persévérer à aimer vos enfants et en leur mettant des repères. Alléluia, l'amour a besoin de repères. Alléluia, et il n'y a pas de liberté sans repères. Amen, gloire à Dieu. Amen. Et on s'aperçoit que eh bien, dans la vie d'Abraham, eh bien, Dieu a pardonné. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Je peux venir à toi tel que je suis, Seigneur. Mon Dieu, tu me pardonnes, tu me relèves. Le sang de Jésus me purifie de tout péché et me donne la victoire sur l'adversaire. À Satan, la défaite. Au péché, la défaite. Mort, où est ta victoire? Jésus est ressuscité, alléluia. Mon rédempteur vit, amen. Alléluia. Et puisque j'ai un tel rédempteur qui veille sur moi jour et nuit, mais alors, j'ai peur de rien. J'avance sûrement dans cette vie, alléluia. Et je peux marcher dans tes voies et dans tes promesses, Seigneur. Alléluia. Je termine. Donc, pour persévérer, on a une sagesse, la parole de Dieu. Ne te confie pas en X, en Y. Tu as la parole de Dieu, tu as les promesses de Dieu. Que ce soit ta boussole. Concernant ta propre nature et tes faiblesses, le Seigneur veut te rendre fort. Et il t'aime, et il te redresse, il te pardonne, mais il te renouvelle et il t'éduque pour que tu deviennes un homme, une femme aguerrie, mature. Et puis ensuite, eh bien, il y a la puissance de Dieu qui, elle, ne change pas. Ils étaient fatigués, quand même, Adam et Ève, Abraham et Sarah. Ils étaient fatigués parce que 25 ans d'attente, lui, il a 100 ans, elle a 90 ans. Le texte grec dit que c'est pas qu'elle n'était pas capable d'avoir des enfants, mais que le sein de Sarah était nécrosé, nécros en grec. Il y a la mort à l'intérieur, il y a la mort. Mais là où il y a la mort, il y a la vie qui s'y met. Et 25 ans, 30 ans, 1000 ans, enfin, on ne vit pas 1000 ans, mais peu importe, Jésus, c'est la résurrection et la vie. Et la puissance de Dieu n'a pas changé. Et moi, je suis heureux d'appartenir à une église de Pentecôte où on croit dans l'action puissante du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'on n'est pas dans la morale, on est dans une foi vivante où le Saint-Esprit agit. Alléluia. Où il guérit les malades, il sauve les perdus, il transforme le cœur des hommes et des femmes les plus vils. Jésus, notre Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Et tout à l'heure, je vous assure, en choisissant les chants, je n'ai pas pensé au rapport qu'il y avait avec cette prédication. Dieu va se nommer devant Abraham. Allez, on va le lire si vous voulez. El Shaddai. Vous êtes avec moi. J'espère que je ne vous perds pas là. Hein. Bon. Abraham, non. Genèse 17, verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Jean, il faut que tu ailles jusqu'à 99 ans. Hein. Voilà. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu, vous êtes avec moi ? Je suis le Dieu tout puissant, marche devant ma face et sois intègre, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Ça nous dépasse ça, hein ? Ça nous dépasse. Hein ? Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander et imaginer. Et il dit, je suis le Dieu tout puissant. On sort d'une période de 13 ans de silence. Pendant 13 ans, la Bible ne nous dit pas que Dieu ait parlé à Abraham. C'est l'histoire avec Agar. Abraham et Sarah se sont entendus pour dire « On a la promesse, on va l'accomplir à notre sauce. » Agar. D'accord, tu veux faire comme tu veux. Bah, je te laisse. Tu ne me consultes pas. Bah, vas-y, hein. Et puis tu arranges tes affaires pseudo-spirituellement. Voilà. En réalité, tu trompes ta femme, mais ce n'est pas grave. D'accord. 13 ans de silence. Pendant 13 ans, Dieu ne parle pas à Abraham. C'est dur, ça. Hein ? Imaginez une vie, une période pendant 13 ans, ou peut-être une période de vie, peut-être une période que tu es en train de traverser. Je ne sens plus l'onction sur ma vie. Je me sens sec. Et peut-être qu'au travers de ce texte, tu comprends pourquoi. Tu sais pourquoi. Je me sens sec. Je ne sens plus cette joie, je ne sens plus la présence du Seigneur. Et puis, au bout de cette 13e année, Dieu parle. Et il lui dit, je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire, je suis le Dieu tout-puissant. J'ai pas besoin que tu m'aides, Abraham, pour que ma parole s'accomplisse. Mais toi, fais une seule chose. Sois fidèle, sois entier, intègre, un cœur entier, même si tu comprends pas tout, même si tu sais pas tout expliquer, même si l'horloge biologique, elle tourne, etc. Allez, laisse tomber tout ça, mais toi, progresse avec moi, marche avec moi, et c'est là où on voit l'amour de Dieu, et moi, j'établis mon alliance avec toi. Le Seigneur est bon quand même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alléluia. Et là, eh bien, on s'aperçoit que Dieu manifeste eh bien, à nouveau son amour, mais également ce que je voulais partager avec vous, eh bien, c'est sa puissance, une puissance créatrice. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur est capable de même de créer, voire même de recréer sur d'anciennes ruines ce qui a été abattu. Peut-être que le cœur de quelqu'un est en ruine, mais le Seigneur veut recréer, veut rebâtir, veut reconstruire. Il en a la possibilité, il en a le pouvoir, parce qu'il est Dieu. Il est « Je suis ». On l'a chanté tout à l'heure. Il n'est limité par rien. Le temps n'est rien devant lui. Les éléments de la terre ne sont rien devant lui. Ta vie la tient entre ses mains et sa puissance est toujours la même. Abandonne les raisonnements humains. Quelque temps en arrière, je crois que vous l'avez dit il n'y a pas longtemps, on parlait avec les enfants de plusieurs serviteurs de Dieu, etc. Alors, de ceux qu'ils ont connus, ceux qui n'ont pas connus. Et on a parlé de cet évangéliste que vous connaissez tous, dont vous connaissez tous le nom au moins, Billy Graham. Voilà. Et cet homme de Dieu a passé à un moment une crise intérieure. Parce qu'un homme instruit, avec plusieurs diplômes, Dieu n'est pas contre les diplômes, hein, au contraire. Hein. Voilà, après, on n'a pas tous le même cerveau, hein, mais bon, voilà. Mais bon, et on lui a dit, mais tu sais, la Bible, il faut en prendre et en laisser. Nous, on réfléchit, on est des scientifiques et on comprend qu'il y a des choses qui viennent de Dieu, mais il y a des choses, ça a été ajouté par l'homme, c'est un petit peu mythologique, c'est de la superstition, etc. Et lui, ça l'a complètement ébranlé. Et il explique, mais comment je vais pouvoir prêcher, mais si je deviens rationnel, mais où est le Dieu du miracle, etc. Et puis en même temps, mais Seigneur, en 7 jours, tu as créé le ciel et la terre. Je ne comprends pas tout, je n'ai pas tout expliqué. Une ânesse qui parle, souvenez de ça, hein, tu multiplies des pains, mais Seigneur, mais comment c'est possible, je ne sais pas l'expliquer. Et puis, mais est-ce que ça, c'est une invention, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Et au bout d'un moment, il explique dans son témoignage, mais j'ai pris cette ferme décision de dire devant le Seigneur, et il explique qu'il va dans la forêt, il pose sa Bible sur un tronc d'arbre, et il dit, Seigneur, je crois que je ne sais pas tout expliquer, il y a des choses que je ne comprends pas, je ne sais pas comment tu fais, Seigneur, ça me dépasse, mais Seigneur, c'est ta parole qui est la vérité, et c'est celle-là que je vais prêcher, Seigneur. Et à partir de ce moment-là, il a retrouvé une onction dans sa vie. Les historiens estiment que Billy Graham est l'homme qui a parlé dans l'histoire de l'humanité, eh bien, qui a amené dans l'histoire de l'humanité le plus d'hommes à Jésus-Christ. Un des plus grands prédicateurs de l'humanité. Et pour ceux qui l'ont connu ou qui l'ont entendu prêcher, vous vous souvenez que souvent, il disait, il est écrit. La Bible dit que. Et c'est ça notre force. Alléluia. Le Seigneur n'a pas changé. Et au bout de 25 ans, sa promesse, eh bien, a été tenue. Isaac est né et la promesse de Dieu s'est réalisée. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ils ont été enrichis. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Il est allé jusqu'au bout. Toutes ces choses nous sont données pour que nous aussi nous puissions persévérer, pour que nous puissions avancer, que nous puissions, eh bien, persévérer et trouver un encouragement, même dans ce temps de vacances, même pendant cette période estivale, dire Seigneur, merci Seigneur, parce que tu mets à profit eh bien, ces temps de repos pour eh bien, me permettre d'avancer et de persévérer avec toi. Alléluia. Amen. Vous voulez qu'on prie le Seigneur quelques instants et qu'on dise Seigneur, moi aussi je veux persévérer. Est-ce que tu veux persévérer? Est-ce que tu veux aller jusqu'au bout? Et peut-être quelqu'un est-il rentré dans la savate, excusez-moi, en disant, mais je veux... À quoi ça sert? À quoi bon? Il faut aller jusqu'au bout. Ton Dieu n'a pas changé. Alléluia. Ose la foi. Ose persévérer. On va prier ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta bonté. Tes bontés, Seigneur, ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin, Seigneur, nous sommes là. Et Seigneur, je veux te prier pour mes frères, pour mes sœurs, pour moi-même, pour l'église locale ici à La Mosson, pour les églises qui sont représentés par des frères et des sœurs de passage. Et je te prie, Seigneur, afin que nous soyons de celles et ceux qui persévèrent, qui allons jusqu'au bout, Seigneur, non pas de celles et ceux, Seigneur, qui se retirent pour se perdre, mais de celles et ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, Seigneur, pour hériter des promesses. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que chacun d'entre nous, nous soyons renouvelés par l'action du Saint-Esprit, par la révélation de Jésus. Seigneur, parce que tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Et Seigneur, tu suscites encore la foi. Et ce matin, Seigneur, je te prie afin que dans un cœur, dans le cœur de plusieurs, une foi vivante, une foi conquérante soit renouvelée et que plusieurs puissent dire « Mais je peux atteindre l'objectif avec toi parce que tu ne m'abandonneras jamais. Tu es mon Melchisédek, tu es mon intercesseur, tu es mon avocat. Ta parole et tes promesses ne changent point, Seigneur, à toi la gloire et ta puissance est sans pareil. Tu mets ta puissance au service eh bien, de ton amour pour accomplir ta parole dans nos vies. Seigneur, nous te rendons grâce, à toi la gloire. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, peut-être quelqu'un, Seigneur, est-il fatigué? Peut-être quelqu'un est-il en larmes ce matin? Peut-être quelqu'un est-il découragé? Mais Seigneur, essuie les larmes de ses yeux. Seigneur, essuie les larmes de ses yeux et qu'il ou elle reprenne la marche avec toi. Seigneur, mon Dieu, étant renouvelé, alléluia. Et même si pendant la marche, il y a des larmes qui peuvent couler, Seigneur, ta parole nous dit que ceux qui s'aiment avec larmes reviennent avec des chants d'allégresse lorsqu'ils portent les gerbes. Alléluia. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Mais Seigneur, que nul n'abandonne. Père céleste, au nom de Jésus, alléluia. Tandis que vous êtes sous le regard du Seigneur, dites, confessez votre foi. Et dites à Jésus, je crois en toi, Seigneur. Je crois dans tes promesses. Je crois dans ta parole. Je crois dans ton amour, dans ta grâce. Je crois dans ta puissance, dans ton autorité. Alors, Seigneur, je crois que tu ne m'abandonneras jamais. Et Seigneur, pardon si j'ai changé. Pardon si mes raisonnements m'ont égaré. Mais alors, Seigneur, change-moi afin que je ne change plus. Que je reste dans la bonne voie. Mais Seigneur, je veux avancer. Dites-le-lui au Seigneur, là. Dites-le-lui. Seigneur, je veux avancer avec toi. Je ne veux pas reculer, je ne veux pas me perdre. Seigneur, mais je veux persévérer. Je veux voir ta victoire dans ma vie. Alléluia. Je veux voir ta gloire. Dites-le-lui là, là, là. Et en citant peut-être une situation bien précise. Peut-être c'est pour le travail. Peut-être vous êtes à votre, je ne sais pas, 500e lettre de motivation et il n'y a rien qui se déclenche. Persévère. Persévère. J'ai fait la même expérience, Dieu a béni. Alléluia. Peut-être quelqu'un se considère comme célibataire et dit « ça ne changera jamais ». Peut-être que tu t'y es pris de la mauvaise manière, un peu à la façon d'Abraham et de Sarah avec Agar. Mais attends-toi à Dieu et que ton cœur soit dans l'entente. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir. Dieu a des projets pour toi. Alléluia. Alléluia. Puis peut-être quelqu'un ayant reçu l'appel de Dieu dans son cœur pour un service particulier. Eh bien, mais comment ça se fait que ça ne se fait pas maintenant? Tu sais, tu es comme une flèche et au moment où le Seigneur le voudra, il sortira la flèche de son carquois. Mais en ce qui te concerne, toi, sois prêt, persévère, tiens-toi prêt, dans le silence. Alléluia, laissant Jésus agir dans ta vie. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes sous ton regard et tu as entendu la voix de tes enfants, Seigneur. Qui t'ont dit, Seigneur, je veux aller de l'avant, je veux persévérer. Alors, Seigneur, merci, parce que, Seigneur, tu vas faire infiniment au-delà de tout ce que nous te demandons, pensons, pour que ta parole s'accomplisse, et nous voulons nous attendre à toi. Seigneur, à toi toute la gloire, et je te prie également pour celui, pour celle qui ne te connaît pas encore, afin qu'il n'y ait plus de résistance dans son cœur, et qu'il puisse te dire, Seigneur, entre dans ma vie, deviens mon sauveur. À toi toute la gloire, Jésus. Merci Seigneur. Amen.